Bonjour à tous, chacun, chacune. C'est vrai que il est peut-être plus familier à revenir, un petit peu moins de visiteurs. Voilà, ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. Ce matin, je voudrais partager avec vous un des versets centraux, il y en a plusieurs, dans la lettre aux Romains. C'est une lettre, c'est pas que je l'aime beaucoup, c'est quand même une lettre assez fondamentale qui pose les bases de notre foi, enfin du moins qui les exprime bien à travers la révélation justement que Paul a eue. Je crois que c'est le verset très important. C'est Jésus-Christ qui révèle, c'est lui. Parce que de même que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui qui révèle à nos cœurs la parole. Et je crois que Paul a été bien servi. Mais pas seulement, il veut que nous soyons bien servis aussi. Et ce matin, le verset que je veux partager avec vous, c'est le premier verset du chapitre 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors ce verset, c'est merveilleux, on pourrait partir et dire « Alléluia ». Mais ce matin, on va cheminer un peu pour voir le combat qui précède. Vous savez que, quelques versets avant, Paul dit qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce rendue à Dieu, par Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc on va regarder un peu tous ces termes, tout ce que ça va nous dire. Notre frère en priant disait « Seigneur, viens nous délivrer de cette chair qui nous empêche de nous approcher de toi ». C'est un des points centraux de ce texte. Alors, avant de lire, nous allons lire chapitre 7 et 8, enfin une partie du chapitre 7 et 8, mais je voudrais reprendre rapidement, très rapidement, le cheminement de cette lettre aux Romains. Les chapitres 1 à 3, je fais vraiment très vite, nous démontrent, vraiment c'est une démonstration d'esprit et de puissance, quand on lit ces textes, Paul nous dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit né avant la loi de Moïse ou après la loi de Moïse. Le péché existait avant Moïse, simplement il n'était pas imputé, mais voilà. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Peut-être certains qui viennent la première fois ici, pénétrés par d'autres philosophies, se disent faut pas exagérer quand même. Eh bien, c'est le constat que fait Paul et que Dieu nous donne. Et c'est ça la première révélation que l'homme a lorsqu'il se convertit au Seigneur. Et en plus, cette lettre aux Romains nous dit que l'homme, non seulement il est privé de la gloire de Dieu, mais dans son péché, il est inexcusable. Alors ça, c'est quelque chose, moi j'avoue, j'ai eu bien du mal à admettre, je trouvais tout un tas de raisons quand même, l'homme était moins dans l'ignorance, etc. Or, si on regarde bien, ce n'est pas le cas. Puisque Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, puisqu'il a mis la création sous nos yeux, et avant de le connaître comme sauveur, on peut au moins le connaître comme créateur, et à ce titre, et c'est pour ça que Dieu dit on est inexcusable, parce que si on le reconnaît déjà comme créateur, eh bien on n'a qu'à lui rendre gloire, déjà. Et aujourd'hui, je crois que dans ce monde, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est pour ça que l'homme est inexcusable, parce que sachant au fond de lui-même que Dieu est le Créateur, qu'il y a un commencement, une fin à ce monde, eh bien, il ne le reconnaît pas. Voilà, Paul nous explique ça longuement, avec force détail, dans ses premiers chapitres, pour arriver à ces merveilleux versets 21 à 28 du chapitre 3. Mais maintenant, sans la loi, etc., il y a un salut par l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Christ. Expiatoire, elle expie nos péchés, propitiatoire, le Père éternel a accepté ce sacrifice et l'a agréé. Donc nous sommes justifiés, vous savez, ce verset aussi central de cette lettre, nous croyons que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Paul développe ensuite cette thématique à travers la grâce abondante, un passage d'ailleurs, le chapitre 5 de la lettre aux Romains, qui est souvent utilisé, je dirais, un peu à tort et à travers. Il est dit, effectivement, à la fin de cette lettre, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, connaissant combien le cœur de l'homme est tordu, précise tout de suite d'ailleurs, alors, puisque la grâce a abondé, alors pécherions-nous? Loin de là. Loin de là. Considérez-vous comme mort au péché et vivant maintenant pour Dieu, nous y reviendrons. Chapitre 5 sur la grâce, chapitre 6 qui commence à aller dans les profondeurs de la révélation. Non seulement le péché est pardonné, mais nous devons nous considérer, nous avons été pris avec Christ dans sa mort. On n'aime pas trop ces choses-là, mais passé composé, nous avons été pris avec Christ à mort. Nous sommes descendus au tombeau avec Christ à mort. Il faut comprendre ces choses-là, et ça, c'est une affaire, effectivement, de révélation. Chapitre 7, Paul traite la question de la loi, comparant la loi à un mari quelque peu autoritaire, soulignant qu'une femme, tant qu'elle est liée par le mariage à son mari, mais si le mari meurt, elle est libre. Il compare le rapport d'une épouse avec un mari, certes un peu autoritaire, avec le rapport du croyant à la loi. Et il dit, voilà. Maintenant, c'est vous qui êtes mort quant à la loi, puisqu'il y a une meilleure alliance en Jésus-Christ. Alors, il en est là, dans sa démonstration, je le redirai. Je voudrais qu'on regarde cette lettre, qu'on reçoive ces textes, comme vraiment une lettre qui nous est adressée. Vous allez voir l'expérience que Paul nous partage dans sa propre vie, et ça je crois que c'est important de le dire. Donc, c'est pour ça que cette lettre a une force, parce que celui qui nous la livre, c'est un homme de la même chair, de la même nature que nous, qui a connu des combats, il nous l'écrit là, très clairement. Donc recevons peut-être cette lettre comme cela, comme un frère qui nous écrit, j'y reviendrai, qui nous écrit pour nous dire voilà. Voilà ce qu'est la marche chrétienne, voilà les combats qu'on y rencontre, et voilà ce que nous dit le Seigneur pour aller plus loin. C'est ce matin, j'espère que les uns et les autres, nous aurons davantage cette révélation qui nous donne une maturité en Christ. Ce qui est abordé là, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la croissance de notre foi et dans notre maturité pour qu'on puisse être utilisé à l'œuvre de Dieu. Alors, je vous invite à lire dans Romains 7, nous allons prendre, je vais vous donner un peu le contexte, nous allons prendre à partir du verset 14. Je rappelle également que cette lettre que Paul a écrite, il l'a écrite à des personnes qu'il n'avait jamais vues. À la communauté, une communauté chrétienne qui était à Rome, qui avait été constituée pour une bonne part de juifs qui avaient été chassés, et puis sans doute des quelques romains qui s'étaient convertis. Mais au moment où il écrit cette lettre, il ne les a jamais rencontrés. Et je vous invite vraiment à relire cette lettre avec cet arrière-plan, c'est extraordinaire. Et là, on voit l'œuvre de l'Esprit, parce que c'est comme s'il les connaissait bien. Et on voit dans ces textes comment il reprend, comme s'il voyait, comme s'il lisait dans la pensée de ses interlocuteurs, ce qui nous vaut ces passages, parce que la grâce a surabondé, alors pécherions-nous loin de là, etc., etc. Il reprend, il y a une interactivité avec ses lecteurs. Et qu'on puisse vraiment prendre ces textes comme ça ce matin. Nous lisons dans Romains 7, au verset 14, et nous lirons jusque 8, au verset 20. Je vais m'arrêter par là. Romains 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, dit Paul, je suis charnel, vendu au péché. » Le terme est fort. Hein. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Notez bien, ce n'est pas les péchés, c'est le péché qui habite en moi. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Forme insistante. Dans la littérature juive, il y a une pensée, la pensée hébraïque est une pensée qui est un peu en spirale, qui reprend, qui redit autrement les mêmes choses. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous reviendrons sur ces termes. Il y a la loi de Moïse et puis il y a des lois spirituelles en l'occurrence. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, il récapitule, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi de Moïse fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Écoutez bien ce verset. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais franchement, des versets comme ça, il faut les avoir par cœur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je ferai allusion, je citerai sans doute quelques autres versets de la lettre aux Romains, mais nous allons nous en tenir là. Il y a dans ces textes que nous venons de lire deux aspects. Paul fait allusion, dans un premier temps, à ce qui s'est passé lorsqu'il s'est converti. Et même un peu avant, expliquant, il était un fidèle pratiquant de la loi, et il dit que c'est ça qui lui a donné la mort, finalement. Et c'est vrai que c'est dit dans la parole, celui qui cherche à respecter la loi par ses propres forces, il est conduit à la mort et au désespoir. Et pour le parcours de Paul, qui était pharisien parmi les pharisiens, né d'Hébreu, etc., il est certain que cette pratique de la loi qui avait été donné par Dieu pour un temps, il y a mis tout son zèle. Donc il était zélé, mais dans une direction qui finalement l'a conduit à la mort et à des actes terribles. Mais à un moment dans sa vie, ces choses lui sont apparues. Et ce qui nous a été dit encore ce matin par Jean-François, c'est qu'à un moment ou à un autre, on est convaincu de péché. C'est la première œuvre du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est convaincu de péché, on a deux réactions possibles. Soit encore se raidir dans notre orgueil, soit nous effondrer. Il faut qu'à un moment ou à un autre, dans nos vies, dans la vie de l'incroyant qui cherche, il y ait cet effondrement. Ce premier effondrement, convaincu de péché, mais du coup, enfin en position pour recevoir une vie nouvelle. Ça, c'est vraiment la conversion. Paul l'a connue sur le chemin de Damas, elle a été pour lui fulgurante. La parole a plein de choses là-dessus. Il a été libéré de la pratique du péché, je dirais instantanément. Par contre, il demeure quelque chose. Je rappelle que quand Paul écrit cette lettre aux Romains, c'est quelqu'un qui exerce un ministère puissant. Ce n'est pas un nouveau converti. Or, vous avez vu les textes que nous avons lus. Donc, il ne s'agit évidemment pas là du combat ou du temps de la conversion, parce qu'au temps de la conversion, on a une première illumination, et effectivement, Paul est complètement libéré de la pratique du péché, mais pour autant, il constate qu'il y a deux forces contradictoires qui agissent en lui, comme s'il était double. Il dit, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit un peu plus loin, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hier, j'avais une de mes filles, nous échangions, j'entendais l'échange qu'elle avait avec ses frères et sœurs, elle dit, ah ouais, on entraîne tous des boulets, et alors faut les gérer, etc. Alors, je lui dis à un moment, ce qui est bien, c'est quand on peut larguer le boulet, quoi. Bah, il dit oui, mais bon, sinon on les gère. Je dis bon, c'est déjà une bonne prise de conscience quand on admet qu'on a un boulet. Et Paul, là, il dit, mais j'ai un boulet. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je rappelle, il faut qu'on comprenne bien ces choses-là. Paul dans son ministère. Paul, dans son ministère, il a ce combat. Il y a des discussions des fois, oh oui, mais il parle d'un autre, il parle d'avant. Non, 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 il parle au présent. Il y a des choses qui parlent au passé. Ça traduit le temps de sa conversion. Et là, il parle de ce combat. D'un homme qui est mature en Christ déjà. Mais ce combat-là, il n'est pas réglé encore. Nous voyons donc, dans cet exposé, l'homme intérieur. Alors, l'homme intérieur, l'homme spirituel, je ne vais pas vous refaire un exposé, mais l'homme est tripartite, ça la Bible nous le révèle, esprit, âme et corps. L'homme non régénéré, l'incroyant, se débrouille avec son âme, sa pensée, sa psyché, ses sentiments, ses émotions, sa volonté, son raisonnement et son corps. Il est conduit par l'un ou par l'autre, des fois par les deux. Voilà. Lorsque l'Esprit de Christ vient toucher l'esprit de l'homme, atrophié, desséché, l'organe de réception qui n'a pas servi depuis longtemps, depuis la chute, il y a une illumination, une reconnexion qui se fait. Et, vous savez, c'est comme un zodiaque qui se dégonfle. Si on le gonfle, il se remet d'aplomb. Eh bien, par la nouvelle naissance, l'homme se remet d'aplomb, quoi. Et l'esprit reprend le contrôle, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais c'est d'ailleurs le combat qui nous est décrit là. Il faut bien comprendre que c'est une grâce lorsqu'on le connaît. Parce que ça veut dire qu'on est né de nouveau. L'homme, l'incroyant, n'a pas ce combat-là. J'entends parfois, alors aujourd'hui il y a tellement de choses disponibles sur Internet, etc. Des incroyants peuvent lire des tas d'enseignements sur la chair, l'esprit, conduit par la chair, la marche par l'esprit. Ils peuvent lire tout un tas de choses. Et on voit des fois des gens, mais ils ne sont pas convertis, donc ils connaissent des choses intellectuellement. Mais ces paroles, Paul nous le dit dans la première aux Corinthiens, n'ont de sens et ne peuvent être reçues que par des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur. Comprenez bien. Et donc il y a ce combat. L'homme intérieur, le cœur, l'esprit de l'homme, en l'occurrence régénéré, vivifié par l'Esprit de Dieu, eh bien, cette partie, je dirais, notre être, je vais réunifier tout ça plus tard, désire plaire à Dieu, désire faire le bien. Il a été rempli, ça nous est dit dans Romains 5, nous savons que c'est la vérité et que cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un des signes fondamentaux de la nouvelle naissance, il y a l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Alors, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, ça veut dire nous recevons vraiment que Dieu nous aime, que nous sommes aimés de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, ça veut dire qu'il met un amour pour nos frères et sœurs en Christ, évidemment, mais pour le monde entier. Pas une entité abstraite, pour chaque homme. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est l'amour. Nous reconnaissons que Dieu nous aime. Ça nous donne l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et l'amour pour tous ceux qui ignorent la vérité. Ça, c'est l'œuvre initiale, je dirais, et normale du chrétien lors de la nouvelle naissance. Mais cet homme intérieur, donc, il désire, c'est clair, il a la volonté de plaire à Dieu. Et puis, il y a une autre force, la chair. La chair, selon la parole de Dieu, quand on décortique, c'est l'âme et le corps. C'est pas que le corps. C'est aussi toute notre âme. C'est toute la volonté propre. On peut au moins retenir ça comme un premier fondement. Notre volonté propre. Elle est marquée. Et là, les mots de Paul sont très forts. Elle est marquée et irrémédiablement opposée à Dieu et à l'Esprit. Jean-François l'a rappelé aussi dans l'introduction. L'homme naturel n'aime pas Dieu et n'aime pas les choses de Dieu. Il y a une opposition fondamentale. Elle est marquée par la chute, comme la totalité de la création. Elle est toujours prête à se manifester et à s'immiscer. Ça, ce qu'on est en train de dire là, c'est un point capital dans notre marche chrétienne, une chose que nous ne devons pas ignorer, faute de quoi nous serons manipulés par la chair. Le texte que nous méditons nous parle d'un combat de forces agissantes selon des lois spirituelles. Je vais venir là-dessus. Et je pense que c'est important qu'on soit bien renseigné. Vous savez, dans les guerres, c'est le mieux renseigné qui gagne souvent les batailles. Évidemment, il faut avoir des armes. Mais le renseignement est une arme fondamentale. Et dans notre marche chrétienne, si nous n'avons pas ces fondements, si nous n'acceptons pas ce que dit la parole sur ce qu'est notre nature non régénérée, eh bien nous allons au vent de grandes désillusions, de grands reculs. Je voudrais dire tout de suite ici que ce dont nous parlons ce matin, il n'est pas question du salut, mais de la marche vers une maturité chrétienne pour être utilisés selon ce que Dieu a prévu que nous soyons utilisés. Donc dans les guerres, c'est le mieux renseigné qui gagne bien souvent. Songez à Israël, ce petit état de rien du tout, mais par contre qui est champion dans l'enseignement. Encore quelques remarques importantes. La prise de conscience de ce combat intérieur, de ces réalités spirituelles sont une grâce. Elles sont une étape importante vers la maturité spirituelle. Certes, cette prise de conscience vient souvent après des mois ou des années. Si ça a été le cas pour Paul, ne soyons pas surpris. Peut-être pour certains, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous êtes au Seigneur. Et peut-être cet aspect-là n'a pas surgi. Peut-être qu'il n'y a pas encore les clés. C'est tout à fait possible. Souvent, ça vient après des mois ou des années après la conversion. Souvent à l'occasion d'épreuves, d'échecs, de désillusions sur nous-mêmes, sur les autres. Ça peut venir à la suite d'amertume, de jugement que nous avons porté parce que ça n'allait pas assez vite. N'est-ce pas le cas de Paul? Si l'on considère l'introduction de cette lettre aux Romains, je vais juste lire un ou deux versets qui sont très révélateurs. Cette lettre s'adresse à ceux qui ont été appelés en Jésus-Christ et qui sont appelés, destinés à être saints, et donc pas des inconvertis, je le rappelle. Cette lettre, elle est destinée à des hommes dont Paul, des hommes et des femmes, dont Paul dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Et regardez en Romains 1, versets 11 et 12, c'est intéressant. Paul dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ». Ou plutôt, afin que nous soyons ensemble, encouragés, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » C'est curieux, c'est comme si Paul, après, dans son enthousiasme un peu, dire « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Paul a un ministère puissant, il a tous les dons, il les exerce, il n'y a aucun problème. Puis d'un seul coup, c'est comme si Saint-Esprit le reprenait. Finalement, non, je viens au milieu de vous, je désirerais être avec vous pour partager. Parce que moi aussi, qui ai ce ministère, dont la réputation est grandissante dans le monde chrétien, j'aurais plutôt partagé avec vous, fraternellement. Je crois que Paul a vécu quelque chose de très fort. Si l'on considère son parcours, lui pharisien, hébreu d'hébreu, persécuteur de l'Église, irréprochable quant à la loi, ce parcours l'a marqué. Et lorsqu'il a été terrassé sur le chemin de Damas, devant l'horreur de ce que sa propre justice l'avait conduit à faire, il a été brisé, ça, il n'y a aucun doute. Et oui, instantanément, je le disais tout à l'heure, la vie de Paul a été retournée. Ceux qu'il persécutait, il les aimait maintenant. Il se mit à annoncer celui qu'il haïssait. Les témoignages sont clairs et nets à ce sujet. Même à Ananias, qui était inquiet quand on lui a dit « Va voir un dénommé Paul », il a dit « Mais attendez, vous n'y songez pas. Il a des lettres pour nous arrêter à Damas. » Ananias se méfie, mais la réalité est là. Cet homme a été transformé. Oui, Paul est mort au péché et vivant pour Dieu. Mais ici, il nous partage un autre combat, une autre découverte. Il saisit que son zèle, sa volonté de servir, d'annoncer l'Évangile, les dons qu'il a reçus avec abondance, tous les dons de langue, de discernement, de prophétie, de puissance, guérison, délivrance, se heurtent à une réalité qui vient se rappeler à lui. Il réalise que malgré la nouvelle naissance, malgré le changement radical de vie, malgré l'abandon de pratiques méchantes, pensons à la mort d'Étienne et sa chasse aux chrétiens, il y a en lui une force qui le pousse à. Il y a en Paul, dans ce Paul-là, une force qui le pousse à. C'est la définition d'une puissance. Il y a en lui un potentiel à penser mal, à parler mal, à agir mal. Et Paul saisit ce qui se passe et ce qu'il fait là, il nous le partage. Devant cette tendance qu'il caractérise avec des mots très forts, je lui dis, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Est-ce qu'on est convaincu de ça, les uns et les autres? Est-ce qu'on est convaincu que ce qui est bon, et ce qui est bon, c'est ce que Dieu déclare bon, ce n'est pas notre opinion? Est-ce qu'on est d'accord que ce qui est bon n'habite pas en nous, c'est-à-dire dans notre chair? Nous avons la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Est-ce que nous pouvons dire avec Paul, je suis charnel, vendu au péché? C'est-à-dire, égo, ma chair, la partie de l'homme qui ne sera restaurée, renouvelée et sauvée que lorsqu'il sera régénéré dans une chair nouvelle, pour l'instant, j'insiste lourdement, pour l'instant, cette partie-là de mon être, il faut que je sache, elle est irrécupérable. Devant d'ailleurs cette tendance, cette puissance, Paul nous met en garde de ne pas chercher à respecter la loi par nos propres forces, c'est peine perdue. La loi spirituelle du péché et de la mort, une autre loi spirituelle qui est attachée à notre chair, rend cette loi, la loi mosaïque, la loi de Moïse, sans force. C'est dit dans la parole. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de plaire à Dieu. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de plaire à Dieu. Ce constat si humiliant, si douloureux, conduit à un désespoir qui arrachera à Paul ce cri « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et vous voyez, lorsque vous les lisez, je pense que vous avez une Bible qui est découpée en chapitres comme la mienne, ce qui n'est pas le cas des textes originaux, je ne sais pas pourquoi la séparation est faite là, mais je ne suis pas un théologien, et je crois qu'il faut qu'on lise tout ensemble. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Petite locution de liaison. En effet, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie, et là donc je pose bien ces deux lois spirituelles, la loi du péché et de la mort, je rappelle, c'est comme des lois physiques. Les lois physiques, elles ne changent pas, elles sont constantes. Et tant que Dieu soutiendra sa création, elles se dérouleront comme ça. Ces lois spirituelles ne changeront pas davantage. La loi du péché et de la mort, c'est celle qui régit notre chair. C'est comme ça. Mais la bonne nouvelle que proclame Paul ici, c'est qu'il y a une loi supérieure, qui lui est supérieure. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de Moïse, aux 10 commandements et à toutes les ordonnances vétérotestamentaires, cette loi de Moïse, dont pourtant Dieu a dit « celui qui accomplira cette loi vivra », elle est donnée pour qu'on comprenne, pour nous aider à parvenir à ce point où Paul est « je n'y arrive pas ». Mais Seigneur, j'ai encore fait des efforts. Et j'y arrive pas encore. Comprenez que ce désespoir, Dieu le veut dans nos vies. Celui-là, il le veut. Et franchement, souvent c'est long. Mais moi ce matin, c'est un encouragement que je veux donner. Dieu connaît notre cœur à chacun. Dieu connaît nos motivations. Tu es zélé pour Dieu. Tu fais des efforts. Tu vois dans ta vie des choses encore qui ne vont pas. Je ne parle pas des péchés grossiers, ça relève de la délivrance. Et Dieu veut celui qui délivre aussi. Mais je parle de cette tendance à la chair, même à faire des œuvres bonnes, à m'engager, et qui nous emmène, tant qu'on n'a pas cette victoire, à renouveler d'efforts, jusqu'au découragement, jusqu'à l'épuisement. Mais c'est quand même au cœur de cet épuisement que la révélation viendra. Il n'y a plus. Comprends les lois du Seigneur. Comprends la loi spirituelle. Il est venu, Jésus-Christ l'a libérée. Cette loi de l'esprit de vie, elle est libérée par le premier qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui a répandu son esprit. Il y a un rapport de puissance entre la loi de Moïse, des commandements, qui a une certaine force et qui contient précisément la chair, mais qui ne peut la dominer. Puis la chair, avec sa loi du péché et de la mort, la loi du péché et de la mort, elle a une certaine puissance. N'oubliez pas que Satan va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Il y a une puissance dans la puissance de la mort et du péché. Deuxième, une puissance plus élevée, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi, on pourrait dire, ben c'est formidable, c'est une loi puissante, je prends et j'en saisis. Non, elle est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est clair, c'est cette seule loi spirituelle, c'est la seule qui est la puissance pour nous libérer des puissances de la chair. Ne cherchons pas autre chose. Ne cherchons pas de nouveau à mériter quoi que ce soit. Ne cherchons pas par notre zèle, et je n'encourage pas du relâchement, mais combattons le bon combat, celui de la foi dans ce que dit la parole de Dieu. C'est lui qui le fera. Et cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui a cette puissance, elle est libérée lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En Christ. C'est une expression qui est beaucoup employée dans les lettres par Paul. Notamment, je vous renvoie à la première aux Éphésiens, c'est extraordinaire le premier chapitre, en Christ, en Christ, en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Christ. Quel est son corps, Christ ? C'est l'Église. Nous sommes une partie de Christ. Une partie, elle est incluse. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes une partie de son corps. Ce n'est que dans le corps, sous l'autorité de la tête, que cette puissance est disponible. Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant, dit Paul, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, non pas les souffrances liées à l'expiation, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Pour son corps qui est l'Église. Il est le chef de l'Église qui est son corps, Éphésiens 5, 23, et dont il est le sauveur. Frères et sœurs, il y a là une invitation à faire un... On a une part à faire, malgré tout, dans tout cela. Après vous avoir dit que ça ne sert à rien de faire des efforts pour respecter la loi, etc. Nous avons par contre une part à faire, et qui là, clairement, est un pas de foi. C'est-à-dire, vraiment là, Seigneur, tu déclares cela dans ta parole, eh bien, je le crois. Et je vous propose à ce sujet un bref retour sur l'Ancien Testament. Sur l'Ancien Testament, il y a deux traversées d'eau. Il y en a une qu'on connaît bien. C'est la traversée de la mer Rouge. Elle est vraiment l'image du salut. Nous sommes arrachés à celui qui nous retenait sous la servitude. C'est l'intervention de Dieu à main forte et à bras étendus. Je crois qu'on n'y est pas pour grand-chose. C'est lui qui nous a sauvés. Mystère. Il nous a prédestinés, il nous a élus, il nous a choisis, il nous a sauvés à main forte et à bras étendus. Nous étions sans force. Passage du Jourdain, deuxième passage, pour entrer dans notre identité, dans notre maturité spirituelle. Et le passage du Jourdain, c'est la mise à mort du moi. Ce n'est pas moi qui mettrai à mort le moi. Ce n'est pas ma chair qui crucifiera la chair. Si vous êtes en Christ, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en Jésus-Christ. Faites donc mourir par l'Esprit les œuvres, les mauvaises actions de la corps, du corps et de la chair. Le passage du Jourdain, nous allons lire quelques versets intéressants dans Josué 3, les versets 10 et suivants. Jourdain, c'est ce qui va ouvrir la porte pour entrer dans le pays de la promesse. On est bien d'accord. Josué 3, verset 10, Josué dit « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hessiens, les Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici. » Voilà une bonne image de la chair. Les tribus qui occupent. Qui rendent des cultes. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Dieu ne dit pas à Josué, tu vas étendre ta main et le Jourdain va s'ouvrir. Il dit, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Frères et sœurs, nous avons un pas de foi. Il faut se mouiller. Il faut se mouiller. Pour la sortie d'Égypte, pas la peine de se mouiller. Pour l'entrée dans notre identité, il faut se mouiller. Seigneur, tu dis ces choses. Je vois mes combats. Je te connais, je t'aime. Mais je veux rentrer dans mon identité. L'identité de fils. Je n'ai pas développé, vous avez vu dans le texte, il est parlé de fils. Il n'est pas parlé d'enfant cette fois-ci. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en l'œuvre salvatrice du médiateur unique Jésus-Christ. C'est réglé. Passer d'enfant à fils, nous avons un pas à faire. Nous avons un pas à faire. Quand leurs pieds se furent mouillés, quand la plante des pieds, le Jourdain s'est ouvert. J'aurai encore un certain nombre de choses à dire, pour rester un petit peu sur cette entrée dans Canaan. Qu'est-ce qu'ils ont en Canaan? Toutes les tribus, les gentilles tribus, là. Frères et sœurs, Paul, quand il saisit la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, c'est pas pour rentrer dans un nouveau truc tranquille, ça y est, maintenant je suis victorieux, machin. C'est pour avoir la force nécessaire pour les combats qui seront encore plus rudes. Mais il sera équipé ce coup-ci. Il sera équipé. Les combats ont été rudes. Parce que la chair, et ces tribus, je crois, sont une excellente image de la chair, de la puissance de la chair, de la puissance du péché et de la mort. Il nous est dit, là aussi dans le livre de Josué et les juges, que ce combat fut long. Il a bien commencé, et puis il y a eu notre faiblesse. Tout cela nous rappelle que jusqu'au bout, frères et sœurs, le combat avec la chair, il est normal. Mais c'est mieux d'être bien éclairé, de bien identifier les forces en présence. Évidemment, notre âme préfère, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est plus sympathique. Ça fait plus chaud instantanément au cœur. C'est plus convivial. Mais là n'est pas la réalité spirituelle que Paul nous explique ce matin. Frère, ce monde est déchu. Il a été soumis à la vanité, non pas de son propre gré, mais par celui qui l'y a soumise. Mais nous avons ce privilège, et ça c'est le privilège de la révélation. Il faut que ce soit révélé ces choses, pour que ce soit pour nous une force et une victoire au sein des épreuves, des difficultés qui vont aller grandissantes. La pression de la puissance du péché dans ce monde, elle est grandissante. Nous venions ce matin, moi ça me remue, il y avait un chant, il nous a dit comment retenir ce que nous avons reçu parmi ceux qui errent, etc. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez vu en venant, il y a dû y avoir une teuf, je ne sais pas où, à... Mes frères et sœurs, mais je pense que c'est la moisson qu'elle a. Mais elle est pas facile. Parce que Dieu, il sauve. Mais quand on est sauvé dans un état comme ça, bousillé par la drogue, l'alcool, le sexe, les choses de la mort, les puissances de la mort qui sont dans les musiques terribles, eh bien, la restauration pour relever ces hommes... Il y a un travail, frères et sœurs, et qui va le faire, si ce n'est l'Église de Jésus-Christ? Mais une Église de Jésus-Christ qui connaît ses réalités spirituelles. Vous les avez vus ce matin? Dieu nous envoie. Mais vous nous envoyez équipés. Pour terminer, nous allons lire le début du chapitre 12 de Romains. Parce que la lettre aux Romains, si vous voulez, avec ce chapitre 8, se termine la partie doctrinale un peu de la lettre. Même si Paul nous la livre avec un cœur, comme un frère, qui vit la même chose que nous. Et je veux faire ça avec vous parce que, pour que nous comprenions bien le sens, il y a cette partie doctrinale où Paul nous conduit à la maturité. Et au chapitre 12, juste un mot, les chapitres 9, 10, 11 sont comme une incise, on dirait un excursus qui développe la situation d'Israël, parce que, tandis que Paul parle à ses frères, d'un seul coup il est saisi par ses frères selon la chair, par ses compatriotes. Il est en train d'exposer des choses spirituelles merveilleuses. Il se dit, mais Seigneur, je voudrais être anathème pour que mes frères selon la chair connaissent ces choses. Alors il n'est pas embarqué, c'est le Saint-Esprit, le conduit dans un développement autour d'Israël sur trois chapitres, 9, 10 et 11. Mais la logique, si vous voulez, de l'exposer après Romains 8, c'est Romains 12. D'ailleurs, il le dit, « Je vous exhorte donc, en raison de tout ce que je vous ai dit avant, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Voilà le pas qu'il nous invite à faire. Seigneur, je n'arrive pas dans ce combat. Seigneur, je me livre à toi. Je me livre à toi. Fais, j'ai perdu, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Impossible aux hommes. Il en faut du temps pour que nous comprenions ce verset. Impossible aux hommes. Mais possible à Dieu. Alors, il nous invite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Comptez sur la compassion de Dieu. Il voit votre état, vous n'en pouvez plus parce que vous avez essayé. Il vous est sincère, il sait tout. Il connaît notre cœur. On ne va pas décortiquer ça. Si on est vrai devant lui, il connaît tout ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable selon cette révélation. Un culte raisonnable, je m'offre entièrement à toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais très très vite. Parce qu'ensuite, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Romains 12, de 9 jusqu'à 21, il y a une série d'impératifs. Si nous n'avons pas compris l'enseignement de Paul, si nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas livrés au Seigneur en disant, Seigneur, je n'y arrive pas. Agis en moi. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas obéir aux injonctions de Paul. Je vous en cite quelques-unes. Pourvoyez aux besoins des saints, bénissez ceux qui vous persécutent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il commence par que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et il va terminer cette séquence par ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Par le bien selon Dieu. Des enseignements extrêmement pratiques. Ayez le mal en horreur. Ce que Dieu dit, appelle mal, n'y fricote pas. N'y fricote pas. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu ne pourras pas changer ça. Mais toi, avec ce que tu as reçu, attache-toi fortement au bien selon Dieu. Ce que Dieu déclare bien. Et ça vaut le coup d'aller le chercher dans la Bible, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement flou cette affaire. Allons chercher dans la Bible ce que Dieu appelle bien. Et on s'y attache. Et il termine cette série d'impératifs par « Ne te laisse pas vaincre par le mal. » Si tes yeux se promènent, ils vont le voir, le mal. Nous l'avons vu ce matin. Mais surmonte le mal par le bien. Fondé par l'enseignement que Paul nous donne, reçu par révélation du Père, nous pouvons alors vaincre et continuer la course. Je vais m'arrêter là et on va prier. Pour un esprit de révélation dans la connaissance. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu veux que nous progressions, Seigneur, que nous grandissions, Seigneur, dans la foi. Nous soulignons, Seigneur, si souvent ici, notre reconnaissance pour ce si grand salut. Et Seigneur, la vie ne suffira pas, cette vie sur cette terre, nous y passerons l'éternité à te dire cette reconnaissance. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes sauvés, sans les œuvres de la loi, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, le seul médiateur. Mais Seigneur, tu nous conduis plus loin, appuyés sur cette assurance du salut. Tu veux que nous saisissions, Seigneur, par le Saint-Esprit, cette puissance qui seule peut vaincre et tenir en silence cette chair qui, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, et que nos corps soient transformés, se manifestera. Seigneur, nous sommes de ta création. Nous avons encore une partie de nous-mêmes, Seigneur, qui est l'homme déchu, mais par notre esprit, que tu as touché, que tu as inondé par ton esprit, Seigneur, nous disposons de ce qui est nécessaire pour marcher selon ta volonté. Seigneur, nous t'offrons nos vies pour que tu les saisisses, que tu les transformes. Nous confessons notre échec complet à faire par nous-mêmes et nous confions en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.